إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح التمحيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ الصالح ابن عبد العزيز آل شيخ حفظه الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. طيب، فسنذكر اليوم إن شاء الله تعالى مسائل هذا الباب العظيم. منها الأولى: تفسير قوله إن صلاتي ونسكي. Donc, on est toujours dans le chapitre concernant ce qui est parvenu au sujet du sacrifice ou de l'abattage pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. On va citer aujourd'hui les masa'il, donc les questions ou les points importants de ce chapitre. Le premier point, l'explication de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans le sens du verset: certes, ma prière et mon sacrifice. Ma prière et mon sacrifice. Tayeb, on avait expliqué ce verset, alhamdulillah, pendant les cours précédents. Bihamdillah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le sens, c'est que ma prière et mon sacrifice, eh bien, c'est Allah tabarak wa ta'ala, taïeb, qui mérite que je voue ma prière et mon sacrifice pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Athaniya, tafsir qawlihi, azza wa jalla, fasalli li rabbika wanhar. On avait expliqué également déjà donc la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans le sens du verset: et prie pour ton Seigneur et sacrifie. Taïeb, et on avait expliqué pourquoi Allah tabarak wa ta'ala il rassemble ici, il a réuni ici entre la prière et le sacrifice. طيب. ثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. Troisième enseignement, le fait que l'auteur, ou que le, plutôt, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé dans le hadith d'Ali, radiallahu anhu, par la malédiction de celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité quatre individus, quatre personnes qui sont sous la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la première personne qu'il a mentionnée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-shaykh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala qala bada'a bihi li'annahu min ash-shirk. والله جل وعلا إذا ذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد لأن حق الله تبارك وتعالى أعظم الحقوق قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فينبغي أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته. Donc dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé le hadith par la malédiction de celui qui sacrifie pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le fait d'abattre une bête et de sacrifier une bête pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est du shirk. C'est du polythéisme. D'ailleurs, et Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il mentionne les droits, il commence d'abord par le tawhid. Il commence d'abord par le tawhid. D'ailleurs, car le droit d'Allah est le plus important des droits. Le droit d'Allah est le droit le plus important. Par exemple, Allah jalla wa ala, dans un verset, il dit, dans le sens du verset, et adorez Allah et ne lui associez rien et soyez bienfaisant envers les deux parents. Donc vous remarquerez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a commencé par le tawhid. Adorez Allah et ne lui associez rien. Dans un autre verset, Allah jalla wa ala, il dit aussi, dans le sens du verset, et ton Seigneur a ordonné n'adorez que lui. Et soyez bienfaisants envers les deux parents. Encore une fois, Allah tabaraka wa ta'ala, il a commencé par at-tawhid, par le droit d'Allah jalla wa ala, qui est son unicisation dans l'adoration. Taïb. Donc il dit le Cheikh, il convient donc que l'on commence, lorsqu'on cite les interdits, lorsqu'on cite les châtiments, que l'on commence par à citer le plus grand et le plus énorme des interdits, qui est le fait d'associer Allah Jalla wa Ala dans ce qui lui est propre, et que l'on mentionne également les châtiments et les punitions qui pèsent sur la personne qui commet cette association à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabi'a, la'nu man la'na waliday. لعن من لعن والدي ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. قال الشيخ ولعن الرجل للرجل له معنيان. لعن الرجل للرجل له معنيان. الأول الدعاء عليه باللعن، الثاني سبه وشتمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بقوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. Quatrième point, il dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, la malédiction de celui qui maudit ses parents. La malédiction de celui qui maudit ses parents. Voyez? Et fait partie de cela, en fait, le fait d'insulter les parents de quelqu'un qui, lui, par la suite, en retour, va insulter tes parents. D'accord? Donc, celui qui insulte les parents de quelqu'un, c'est comme il insultait ses propres parents. Pourquoi? Parce que c'est à cause de lui que ses parents ont été insultés. Donc, c'est à cause de lui que ses parents, là, ont été insultés, comme j'ai dit. Et donc, c'est comme s'il avait insulté ses propres parents. Donc, il est sous la menace de ce hadith, de la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala sur lui. Jayid, parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah maudit celui qui maudit ses deux parents. Mais comment? On peut se poser la question, mais comment un homme peut-il maudire ses parents? Eh bien, comme l'a expliqué, il dit le cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, donc, le fait de maudire quelqu'un, cela peut avoir deux sens. Le premier sens, ça veut dire invoquer ou demander à Allah tabarak wa ta'ala qu'Allah le maudisse. Ça, c'est le premier sens. Quand tu dis qu'un tel soit maudit, ça veut dire tu demandes à Allah tabarak wa ta'ala qu'il maudisse la personne. Mais ça peut vouloir dire aussi autre chose. C'est quoi cette autre chose? Eh bien, c'est le fait d'insulter la personne et de l'injurier. Lorsque tu insultes la personne et que tu injures la personne, tu la maudis également. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a expliqué ce hadith, lorsqu'il a expliqué cela, il a dit, la personne insulte le père de l'individu qui insultera son père à son tour. Et la personne insulte la mère de l'individu qui va insulter à son tour la mère de celui qui l'a insulté. Donc c'est comme s'il avait insulté ses propres parents, puisque c'est lui la cause de cela. C'est lui qui a provoqué ces injures et ces insultes envers ses deux parents. Taïeb? Naam. Al-Khamisa, la'nu man awa muhdithan. وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. طيب قال الشيخ العثيمين وهذا يشمل الإحداث في الدين والجرائم فمن آوى محدثا ببدعة فهو داخل في ذلك ومن آوى محدثا بجريمة فهو داخل ذلك. Cinquième point, la malédiction de celui qui protège et qui défend un muhdith. On verra c'est quoi ou ce que peut vouloir dire ce terme, le muhdith. Donc, le muhdith, il dit l'auteur ici, rahimahullah, c'est celui qui a commis un crime pour lequel il est obligatoire qu'il soit puni pour son crime. Et donc qu'il subisse une peine légale légiférée dans l'islam. Et donc ce muhdith, ce criminel qui a commis un crime, et qui doit être sanctionné par le gouverneur musulman, il se peut qu'il se retourne ou qu'il demande la protection à quelqu'un. Donc ce quelqu'un, s'il le protège, malgré le fait que la personne doit être punie par le dirigeant, na'am, eh bien il est concerné par ce hadith. Il dit le cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, que cela englobe également Al-Ihdath dans la religion. Donc Al-Muhdith dans la religion, c'est celui qui innove. C'est celui qui fait une innovation dans la religion. D'accord? Donc de la même façon, celui qui va protéger ou qui va défendre une personne, un innovateur dans la religion, eh bien il est aussi concerné par la menace de ce hadith qui est la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala sur lui. Comme celui qui défend ou protège ou héberge un criminel. Taïeb? الحمد لله. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بالتقديم أو التأخير. Sixième point, la malédiction envers celui qui modifie les frontières de la terre, les frontières, les limites. Hein? Ces limites ou ces frontières qui séparent entre ton droit et le droit de ton voisin. Là, on parle du droit de la terre. Celui qui veut, par exemple, il va déplacer, il va agrandir son terrain injustement. Il va les déplacer de manière frauduleuse pour pouvoir agrandir son terrain et du coup restreindre le terrain de son voisin. Ou celui qui va modifier les frontières de la route, qui va modifier la signalisation de la route. D'accord ? Donc il va soit avancer la ligne qui sépare son terrain et celui de son voisin, ou la reculer. Naam. Lui aussi, il est donc maudit par Allah tabarak wa ta'ala. As-sabi'a, al-farqu bayna la'n al-mu'ayyan wa la'n ahli al-ma'asi ala sabil al-umum. Qala al-shaykh al-Uthaymeen, rahimahullah. Fal-awwal mamnu'a. Al-awwal mamnu'a, ay لعن المعين والثاني جائز أي لعن أهل المعاصي على سبيل العموم فإذا رأيت من آوى محدثا مثلا فلا تقول لعنك الله بل تقول لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله اللهم إلعن فلانا وفلانا وفلانا نهي عن ذلك بقوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب. Septième point, la différence entre le fait de maudire un individu en particulier et le fait de maudire les désobéissants de manière générale. Il dit le cheikh al-Faymin, rahimahullah ta'ala, la première elle est interdite et la seconde elle est permise. Donc la première c'est quoi? C'est le fait de maudire quelqu'un en particulier, un individu en particulier précis. Ça c'est interdit. En revanche la seconde, le fait de maudire de manière générale ceux qui désobéissent à Allah tabarak wa ta'ala, eh bien cela est permis. Par exemple, lorsque tu vois quelqu'un qui va défendre et protéger un innovateur ou un criminel, ne lui dis pas qu'Allah te maudisse. Ne lui dis pas qu'Allah te maudisse. Mais tu peux dire qu'Allah maudisse tous ceux qui protègent et défendent un innovateur. De manière générale, parle de manière générale. Tu as le droit de faire ça, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, insulter les parents de quelqu'un, ne lui dis pas qu'Allah te maudisse. Dis-lui, Allah, il a maudit tous ceux qui insultent leurs parents. Ou les parents. Taïeb. La preuve de cela, c'est quoi? C'est le fait que un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à maudire des gens. Il s'est mis à maudire des gens parmi les polythéistes de la Jahiliya. Et il a dit, « Oh Allah, maudit un tel et un tel et un tel. » Puis Allah tabarak wa ta'ala lui a interdit cela. Il lui a interdit cela et il a descendu sa parole dans la sourate Ali Imran, verset 128. Dans le sens rapproché, Allah tabarak wa ta'ala il dit, tu n'as aucune part dans l'ordre divin concernant les serviteurs, qu'Allah accepte leur repentir ou qu'il les châtie, car ils sont transgresseurs. Taïeb, donc Allah tabarak wa ta'ala lui a interdit de maudire des individus spécifique en particulier. فالمعين ليس لك أنت العنى. وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه. إذن يؤخذ هذا من دليل منفصل. طيب، من دليل منفصل. وكأن المؤلف قال الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، فجاء هذا الحديث لاعنا للعموم، فيبقى الخصوص على أصله، لأن المسلم ليس بالطعان وليس باللعان. طيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس طعانا وليس لعانا، ولعل هذا وجه أخذ الحكم في الحديث، وإلا فالحديث لا تفريق فيه. Donc l'individu particulier, la personne individuelle, eh bien tu n'as pas le droit de la maudire. Combien de gens possèdent des caractéristiques qui font qu'ils méritent la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala? Combien de gens plutôt possédaient ces caractéristiques-là, puis se sont repentis, puis Allah tabarak wa ta'ala a accepté leur repentir? D'accord? Combien de gens, mathalan, insultaient les parents, ou combien de gens même sacrifiaient pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala? Donc ils étaient sous la menace de la malédiction d'Allah jalla wa ala, puis après ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon à Allah tabarak wa ta'ala sincèrement, et Allah leur a pardonné. Taïm. Et donc, on tire de cela une preuve, taïm, une preuve qui est implicite dans ce hadith. Comme si l'auteur il te disait, la base, avant que l'on connaisse ce hadith, la base est qu'il est interdit de maudire. D'accord ? C'est la base. Il est interdit de maudire. Mais ce hadith, il est venu pour nous apprendre que il est permis de maudire, mais de manière générale, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Mais la particularité qui est la malédiction, le fait de maudire une personne en particulier, elle reste dans sa base qui est l'interdiction. Mais l'exception, donc, concerne le fait de maudire de manière générale un groupe de gens, d'accord, dans l'absolu. Car le musulman, yani à la base, il n'est pas quelqu'un qui maudit beaucoup, d'accord, ou qui injure beaucoup. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas quelqu'un d'injurieux, n'était pas quelqu'un qui maudissait beaucoup, hein, les autres. Tayyib. Et donc, il se peut que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a pris cela donc, ce jugement de ce hadith, naam, même si dans le hadith il n'y a pas vraiment une preuve claire, explicite, sur la différenciation entre les deux. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Thumma qala as-sabi'a aw ath-thamina, afwan, هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. Puis huitièmement, on a vu l'histoire des deux personnes, une qui est entrée au paradis à cause d'une mouche et une en enfer à cause d'une mouche. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. Neuvièmement, le fait que celui qui est entré en enfer à cause de cette mouche, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, qu'il ne voulait pas sacrifier ou donner en offrande cette mouche pour cette idole, mais il ne l'a fait que pour être sauvé du mal de ce peuple, pour être épargné de ce peuple. D'accord ? On avait expliqué donc ça déjà la semaine dernière. On avait dit qu'on avait deux possibilités. Un avis qui disait que soit il est entré en enfer parce qu'il avait le choix de ne pas le faire et de rentrer chez lui, et de ne pas passer par ce chemin, d'accord? Mais il l'a fait quand même, donc c'est pour ça qu'il est parti en enfer. Ou soit, dans les législations précédentes, celles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, même sous l'effet de la contrainte, il n'avait pas le droit de faire cet acte de polythéiste. Et il devait, donc même si ils ont couru la mort, eh bien, il devait choisir d'être tué quand même. C'est ce qu'a fait donc le second homme. Il dit le cheikh, lui, si on prend l'avis qu'il pouvait faire demi-tour, eh bien, il a été tué parce qu'il avait prononcé une parole donc qu'ils ont pris comme une insulte envers leur idole. Taïeb. Ou hakadha. Naam. Ou soit il a été tué parce que il ne pouvait pas faire demi-tour, quoi qu'il arrive. Al-Ashara, ma'rifatu qadri shirki fi qulub al-mu'minin, kayfa sabara dhalika ala al-qatli wa lam yuwafiqhum ala talabihim ma'a kawnihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir. Dixièmement, le fait de connaître la valeur, ou plutôt la gravité de l'associationnisme dans les cœurs des croyants. Et comment les croyants ont patienté face à cela, ont été même tués, d'accord, et n'ont pas concédé et répondu aux demandes des polythéistes, quitte à être assassinés. Voyez? Naam. Alors que certains ne demandaient que l'accomplissement d'un acte visible ou apparent. Donc ils auraient pu peut-être, comme dans notre législation, répondre à leurs demandes, faire l'acte en apparence, mais détester cela dans leur cœur, Jayyid, et ainsi être excusés par Allah tabaraka wa ta'ala, car ils étaient sous l'effet d'une contrainte réelle. Hein? Mais certains ont préféré donc être tués et patienter, yani, dans l'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala. Naam. Al-hadith 13. An alladhi dakhala an-nara muslim. Li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Tayyib. 11e point. Celui qui est entré en enfer était un musulman. On avait dit aussi la semaine dernière. Celui qui a sacrifié cette mouche pour l'idole, il est rentré en enfer et il était musulman. Donc, à travers cet acte-là, il est sorti de l'islam. D'accord? Parce que s'il n'était pas musulman et était déjà un mécréant, le prophète n'aurait pas dit il est entré en enfer à cause d'une mouche. D'accord? Parce que sinon, il serait entré en enfer à cause de sa mécréance. Parce que c'était un mécréant déjà à la base. Mais comme il a dit à cause d'une mouche, ça montre qu'avant cela, il était musulman. Wallah musta'an. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الآن قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى والغرض من هذا الترغيب والترهيب فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك النعل فإنه ينشط على السعي فيقول ليست بعيدة كقوله لما سئل عما يدخل الجنة ويباعد من النار فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه والنار إذا قيل له إنها أقرب من شراك النعل يخاف ويتوقع في مشيه لئلا يزل فيهلك ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين وكلمة أقرب نعم قال شيخ رب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين وكلمة أخرى توصله il a asfali safilin. Wal'iyadhu billah. Le 12e point Il y a dans ce chapitre quelque chose qui vient confirmer ce que l'on trouve dans un hadith authentique, dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le paradis est plus proche de vous que le lacet de vos chaussures. Le paradis est plus proche de vous que le lacet de vos chaussures et l'enfer également. D'accord? Donc il y a dans ce hadith non seulement un encouragement par rapport au paradis, un encouragement, d'accord, mais aussi une intimidation, un avertissement quand il parle de l'enfer. L'encouragement lorsqu'il dit que le paradis est plus proche de vous que le lacet de vos chaussures, et un avertissement lorsqu'il dit que l'enfer également. Donc lorsque on sait que le paradis est plus proche de nous que le lacet de nos chaussures, eh bien cela va nous encourager et inciter à œuvrer et à dire le paradis n'est pas loin, il est là, il est proche. D'accord? Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur une chose, sur une action qui fait entrer au paradis et qui éloigne de l'enfer. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était à Mu'adh ibn Jabal qui lui a posé la question. Et il a dit, tu as certes interrogé sur une chose immense. Et cela est facile pour celui à qui Allah Jalla wa'ala facilite. Et l'enfer aussi. L'enfer, lorsqu'on te dit que l'enfer est plus proche de toi que le lacet de tes chaussures, eh bien tu as peur. Tu vas avoir peur et tu vas te préserver de ne pas justement déraper et tomber et périr dans le feu de l'enfer. Et cela nous montre aussi qu'il se peut que une simple parole peut mener la personne au plus haut degré du paradis, mais qu'une autre simple parole peut mener la personne au plus bas fond de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. Et enfin, treizième point, le fait de savoir que les actes du cœur, c'est l'objectif le plus grandiose, l'acte du cœur, les actions du cœur. Taïeb, même chez ceux qui adorent les adorateurs des idoles, même chez les adorateurs des idoles, wal'iyadu billah. Taïeb, na'am. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même quand tu vois en apparence quelqu'un qui va adorer une idole, s'il le fait sous l'effet de la contrainte, et que son cœur il reste empli et serein de la foi en Allah tabarak wa ta'ala, qu'il déteste la chose pour laquelle elle a été contrainte, eh bien Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr, ne lui en tiendra pas rigueur. Na'am. Car c'est l'acte du cœur qui compte par-dessus tout. D'accord ? أي نعم والله تعالى أعلم donc on s'arrête là inshallah ta'ala. On a vu donc tous les points ici essentiels de ce chapitre et on passera donc mardi prochain au chapitre suivant inshallah ta'ala. نعم intitulé Bab la yudbahu lillah bimakan yudbahu fihi li ghayrillah, chapitre concernant qu'on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit dans lequel on sacrifie pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.